Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Elle et Québec Oiseau. Au programme, voilé ou non, les Turcs s'émancipent. Et le canard noir. Bonne écoute.
L'anxiété sociale. Un texte de Daniel Richard, paru en décembre 2022 dans Reflet, volume 39, numéro 2. L'auteur est directeur général de Phobie Zéro. L'anxiété a la réputation d'être un des grands maux du 21e siècle. Anxiété généralisée, anxiété de performance, agoraphobie. Saviez-vous que la forme d'anxiété la plus fréquente est l'anxiété sociale? De 3% à 13% des gens souffriraient d'anxiété sociale à un moment de leur vie. Ça va au-delà de la timidité. Cette anxiété se manifeste par une peur démesurée et intense concernant une ou plusieurs situations d'interaction sociale durant lesquelles le sujet est exposé à l'observation d'autrui. Quelques exemples. Parler en public, s'adresser à une personne en autorité, manger devant autrui ou simplement participer à une réunion. La personne craint d'agir ou de montrer des symptômes d'anxiété qui l'amèneraient à être embarrassée devant les autres, comme rougir, bafouiller ou faire une bêtise. Les personnes souffrant de ce type d'anxiété ont tendance à éviter les situations sociales, ce qui contribue au maintien et à l'aggravation de leur anxiété. Lorsqu'elles ne peuvent éviter certaines situations, elles se mettent à y penser plusieurs jours à l'avance et les vivent avec une grande détresse. Les mesures sanitaires imposées par la pandémie, notamment la distanciation sociale et le confinement, ont probablement alimenté cette forme d'anxiété. Pour un individu souffrant d'anxiété sociale, la perspective de devoir rester confiné à la maison a pu être attrayante. Qui ne serait pas soulagé à l'idée de ne plus avoir à affronter ses peurs? L'évitement est toutefois un couteau à double tranchant. Il soulage temporairement, mais amplifie le trouble anxieux. D'autres vivent aujourd'hui la crainte d'avoir perdu l'habitude des contacts sociaux au point de ne plus savoir comment se comporter correctement devant autrui, de ne plus savoir aborder leurs collègues, d'être anxieux à l'idée d'aller à une fête. En présence d'autres facteurs de risque, cela peut être suffisant pour voir naître un trouble de l'anxiété sociale. Le traitement et la prévention de l'anxiété sociale reposent sur les approches de la thérapie cognitivo-comportementale ainsi que sur des thérapies de groupe visant à développer des compétences sociales. L'exposition graduelle aux situations causant de l'anxiété est primordiale. Par exemple, sortir quotidiennement de la maison pour faire une promenade ou des courses. On peut aussi échanger par courriel ou par téléphone avec une personne avec qui on se sent à l'aise pour discuter. Et plus on devient à l'aise, plus on peut augmenter le niveau de difficulté. Plusieurs techniques de méditation et de respiration peuvent aussi aider grandement à réduire l'anxiété. Dans ce processus, la constance, l'engagement et surtout la bienveillance envers soi restent les clés de la réussite. Phobie Zéro est un organisme communautaire à but non lucratif reconnu comme un organisme national par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Il permet aux personnes, jeunes et adultes, qui souffrent de troubles anxieux, y compris le trouble obsessionnel compulsif, de bénéficier du soutien auquel elles ont droit et par lequel elles pourront, peu à peu, vivre une vie libre de peurs irraisonnées. C'était L'anxiété sociale, un texte de Daniel Richard, paru en décembre 2022 dans Reflet, volume 39, numéro 2. les microplastiques seraient 5 fois plus abondants dans les océans que ce qu'on croyait. Un texte de Marine Cornu, paru le 10 septembre 2022 dans le magazine Québec Science. Il y aurait 5 fois plus de particules de plastique de moins de 5 mm en suspension dans les océans que ce que les scientifiques avaient estimé précédemment. C'est la conclusion d'une nouvelle étude internationale publiée dans la revue Microplastics and Nanoplastics. Elle se fonde sur l'analyse de plus de 8200 prélèvements d'eau de mer, soit environ 10 fois plus que le nombre d'échantillons évalués dans l'étude de référence précédente. Cette dernière, publiée en 2014, sous-estimait clairement les quantités présentes, concluent les chercheurs. Les données présentées dans ce nouveau travail proviennent de multiples projets de recherche menés de 2000 à 2019 et ont été standardisés avant d'être compilés. À la lumière de ces constats, les scientifiques estiment que 24 400 milliards de fragments de plastique flotteraient dans les océans pour un poids total de 82 000 à 578 000 tonnes. L'objectif de l'étude était de mettre en place une base de données accessible à tous afin de faciliter la recherche sur les microplastiques. L'équipe a également cartographié la répartition de cette pollution dans les océans du globe. Les endroits où de grandes quantités de déchets plastiques mal gérés sont déversés doivent être étudiés de manière intensive, préconise l'équipe, déplorant le manque de données sur les microplastiques dans l'océan Indien et les mers d'Asie du Sud-Est. Hélas, l'étude ne révèle probablement qu'une infime partie du problème puisqu'on estime que 95% des microplastiques sombrent dans les abysses ou restent en suspension dans les colonnes d'eau profonde. C'est notamment ce qu'indique une étude publiée en juin dernier qui a modélisé le mouvement des particules plastiques dans l'eau. Les particules les plus petites s'attachent très facilement aux microalgues et prolifèrent à leur surface, notaient les auteurs. Le gros des microplastiques se trouverait donc enfoui à plusieurs mètres de la surface, à la limite de la zone lumineuse où la photosynthèse est encore possible et où les algues prolifèrent. Rien de très rassurant. C'était « Les microplastiques seraient 5 fois plus abondants dans les océans que ce qu'on croyait », un texte de Marine Cornu, paru le 10 septembre 2022 dans le magazine Québec Science.
Comment planifier sa succession numérique? Un texte de Maxime Johnson, publié dans le numéro de janvier 2023 de la revue Protégez-vous. Livres électroniques, photos, courriels, avoir en crypto-monnaie, voici la marche à suivre pour vous assurer que votre liquidateur testamentaire aura accès à vos biens numériques à la fin de vos jours. Vos avoirs ne se résument plus qu'aux objets dans votre maison et à vos placements dans différentes institutions financières. Vous avez aussi de plus en plus de biens numériques. Si vous n'avez pas prévu le coup, les clichés dans votre ordinateur ou dans un service de sauvegarde en ligne comme Google Photos ne seront toutefois pas aussi faciles à léguer que ceux contenus dans un album physique. Parfois, ce sera même impossible. Dans le cas de certains avoirs en crypto-monnaie, par exemple, personne ne pourra profiter de l'argent que vous avez accumulé si votre mot de passe disparaît avec vous. Heureusement, vous pouvez planifier votre succession numérique en profitant des différents outils mis à votre disposition. Facebook, par exemple, permet de désigner un contact légataire parmi vos amis qui pourra contrôler en partie votre compte à votre décès, notamment pour communiquer des informations sur une célébration commémorative ou encore changer votre photo de profil. Pour les sites qui n'offrent pas une telle option, certains gestionnaires de mots de passe peuvent vous permettre de planifier une transition en douceur en transférant tous vos identifiants à un contact. Voici la marche à suivre pour assurer le transfert de vos avoirs numériques. Désignez un liquidateur numérique. En plus de choisir un liquidateur testamentaire, vous devriez penser à quelqu'un pour s'occuper de vos biens numériques, qui peut être une personne autre que le liquidateur. Optez pour une personne douée en informatique pour cette tâche. Inscrivez votre choix dans votre testament, surtout si vous accordez de l'importance à ses avoirs. Remplissez la section « Actifs virtuels » du formulaire « Patrimoine », votre guide 360. La section « Actifs virtuels » du formulaire « Patrimoine », votre guide 360, créée par la Chambre des notaires du Québec, est un bon outil pour dresser la liste de vos avoirs numériques. Le formulaire vous permet, par exemple, d'inscrire vos appareils informatiques et d'indiquer les données importantes qui s'y trouvent et ce qui doit en être fait. Les principaux services web, photos, musique, livres électroniques et les services financiers en ligne, comme un compte PayPal, peuvent également y être énumérés. Le formulaire, que vous devrez mettre à jour périodiquement et conserver avec vos papiers importants, deviendra le plan d'action de votre liquidateur numérique. Notez qu'il contient une annexe optionnelle où inscrire les mots de passe permettant d'accéder à vos comptes. Si vous l'utilisez, cette annexe devra être rangée dans un endroit sécurisé comme un coffre-fort. Malheureusement, la fréquence à laquelle les mots de passe doivent être modifiés et ajoutés rend cette option plus ou moins pratique, surtout à long terme. Ajoutez votre liquidateur numérique à votre gestionnaire de mots de passe. Certains gestionnaires de mots de passe, comme LastPass, Keeper et Dashlane, vous permettent de nommer un contact qui pourra accéder à vos identifiants à votre mort. Contrairement à un formulaire papier qu'on ne remplit trop souvent qu'une seule fois, ce gestionnaire devrait en théorie être à jour puisque vous l'utilisez quotidiennement pour accéder à vos comptes. La marche à suivre varie d'un gestionnaire à l'autre. Avec LastPass, par exemple, cliquez sur l'option « Accès d'urgence » dans le menu principal, puis sur « Autoriser l'accès d'urgence ». Entrez l'adresse courriel de votre liquidateur numérique, qui devra se créer un compte LastPass, si ce n'est déjà fait, puis indiquez un temps d'attente. Ce temps, d'immédiatement à 30 jours, vous donnera l'occasion d'annuler une demande d'accès si celle-ci est faite de votre vivant. Généralement, un gestionnaire de mots de passe professionnel contient également un espace où enregistrer des notes. Utilisez cet endroit pour indiquer les comptes que vous souhaitez aussi partager avec votre liquidateur numérique, mais qui ne sont pas des sites web, comme les mots de passe pour accéder à vos œuvres d'art numériques, comme les NFT. Vous pouvez aussi inscrire à cet endroit les codes servant à déverrouiller votre ordinateur et votre téléphone intelligent, qui seront essentiels pour que votre liquidateur puisse accéder à vos comptes si vous avez activé l'authentification à deux facteurs dans ces derniers. Attention toutefois, l'accès d'urgence est une fonctionnalité payante, du moins avec LastPass et Keeper. Si vous arrêtez de payer pour le service un jour, votre liquidateur numérique perdra ses accès. La fonctionnalité est gratuite avec Dashlane, mais elle est plus compliquée, puisqu'elle exige d'effectuer des copies de sauvegarde des renseignements, ce que vous devrez refaire dès que vous ajoutez ou changez des mots de passe. Une autre option consiste à inscrire les identifiants de votre gestionnaire de mots de passe dans votre testament ou dans un endroit sécurisé auquel votre liquidateur aura accès. Vous devrez toutefois mettre ces renseignements à jour si vous changez de gestionnaire ou si vous modifiez son mot de passe. Profitez des outils de succession officielle. Les principaux sites web et fournisseurs de services électroniques offrent des fonctionnalités liées à la succession. Les contacts légataires désignés avec ces outils officiels pourront généralement accéder à la plupart de vos données, mais pas à toutes. Facebook, par exemple, ne leur permet pas de lire vos messages personnels. Consultez vos paramètres de compte Apple, Facebook et Google pour ajouter un contact légataire. Notez que si vous avez ajouté un liquidateur numérique à votre gestionnaire de mots de passe, il n'est pas nécessaire de le désigner en plus comme contact légataire dans vos différents comptes en ligne. Consultez un professionnel. Suivre les étapes ci-dessus devrait vous assurer que tous vos biens numériques pourront être gérés après votre mort sans que votre liquidateur ait à perdre des mois à remplir des formulaires et à se casser la tête pour déterminer ce qui doit être fait de vos différents comptes en ligne. Pour plus de sécurité, rencontrez tout de même un notaire pour vous assurer que votre plan de succession numérique tient la route et que vous n'avez rien oublié. Cette étape est particulièrement importante si vous avez des avoirs financiers importants, notamment en crypto-monnaie. C'était « Comment planifier sa succession numérique », un texte de Maxime Johnson, paru dans le numéro de janvier 2023 de la revue « Protégez-vous ».
Mourir de l'intérieur. Un texte de Laurie Jean-Louis, paru à l'automne 2021 dans le numéro 814 de la revue Relations. Nous faire entendre les voix ignorées, voire insoupçonnées, de personnes qui vivent l'exclusion autour de nous. Telle est la mission que l'écrivaine Laurie Jean-Louis se donne dans cette nouvelle série de quatre textes qu'elle nous propose. Dans le premier, elle va à la rencontre de Sabella, infirmière d'origine haïtienne. Un récent séjour en milieu hospitalier m'a troublé. Je n'étais pas à la place de la personne soignée. J'avais donc tout le loisir d'observer ce qui ne concerne pas ma douleur ou ma maladie. J'observais une autre forme de douleur, parce que parfois, on est malade sans avoir mal et que d'autres fois, on a mal sans être malade. Le personnel était parfait. Les médecins et les infirmières, les personnes préposées aux bénéficiaires et celles qui nettoyaient, tout le monde était gentil, comme on dit d'une personne qu'elle est gentille, lorsqu'elle a un peu plus que le minimum de civisme et qu'elle est un peu affable. Seulement, il y avait une tension ténue, repérable par un œil averti comme le mien. Les infirmières, les préposés et les agentes qui redirigeaient les personnes entrant dans le centre hospitalier étaient toutes noires, alors que la majorité des médecins étaient blancs. Cette asymétrie effarante dit une chose, socialement, que la majorité n'est pas prête à entendre. Elle nous dévoile une blessure sociale méconnue et négligée. Cela m'a donné envie d'aller à la rencontre d'une de ces femmes, Sabella. D'origine haïtienne, elle exerce le métier d'infirmière depuis maintenant 8 ans. Après avoir travaillé dans un CLSC qui était débordé en tout temps, elle a quitté le système de santé publique. Autour d'un café, elle a accepté de me raconter son parcours parsemé d'embûches et d'inquiétudes. Son récit révèle une souffrance innommable, difficile à entendre, mais non moins tangible. Une histoire parmi tant d'autres. Sabella me raconte une histoire terrible. Un jour, un couple se rend d'urgence à l'hôpital parce que la femme, enceinte, risque d'accoucher d'un bébé prématuré de moins de 32 semaines. Ce soir-là, tout le personnel en fonction est noir. Le conjoint refuse que des personnes noires traitent sa conjointe enceinte qui peut accoucher d'une minute à l'autre. Le bébé risque pourtant de mourir en raison de sa très grande fragilité. Il a fallu que Sabella lui demande clairement s'il acceptait que des Noirs touchent le nourrisson à la naissance. C'était l'humiliation pour toutes et tous autour. C'est la femme enceinte et à risque qui a dû dealer avec son conjoint, réussissant à lui faire comprendre, 2 heures après que l'obstétricien blanc ait essayé de négocier avec lui, qu'elle allait recevoir les soins des personnes compétentes, peu importe qu'elles soient noires. Sabella prend bien soin de me dire que ce n'est là qu'une histoire parmi tant d'autres. « Il y a des histoires, » dit-elle. « Je n'en demande pas plus. Celle-ci m'a déjà glacé le sang. » Elle précise quand même que toutes les fois où on lui a mis des bâtons dans les roues dans l'exercice de son métier d'infirmière, c'était en mettant en doute ses compétences. Des questions comme « vous, vous savez piquer, peuvent surgir à tout moment. Sabella répond, « Est-ce que vous acceptez que je vous pique pour le traitement que le médecin vous a recommandé en urgence? Je peux appeler une autre de mes collègues. Je ne suis pas sûr qu'elle est capable, mais certains patients pourtant en situation de vulnérabilité se donnent tout de même le luxe de douter de ses compétences sous prétexte qu'elle est une femme noire. » Avant, Sabella se taisait et encaissait silencieusement toutes ces micro-agressions. « Maintenant, me dit-elle, c'est fini. » Elle réplique, « Avant, je ne parlais pas. Maintenant, je n'ai plus de filtre. Pas de problème, je vais mettre une belle note au dossier qui indique que la patiente ne veut pas que je lui donne les soins. J'ai fini d'être compréhensive, d'être professionnelle, de ne pas parler. » Nous continuons notre conversation en cherchant à comprendre comment la pandémie a aggravé la situation du personnel infirmier, le forçant à travailler encore plus, tout en le privant de réelles possibilités de choisir ses conditions d'exercice ou de les contester. « Encore aujourd'hui, me dit Sabella, l'idée générale est que les infirmières ont la main sur le cœur. Ça sonne un peu religieux. Être infirmière serait un acte de dévotion, un don de soi, une vocation, comme on l'entend si souvent. Or, me dit-elle sèchement, le système de santé est une entreprise comme une autre. Plusieurs n'y travaillent que pour l'argent. » Troublée par ce propos tranchant, la féministe en moi ajoute que les professions majoritairement occupées par des femmes sont souvent qualifiées de « sacrificielles ». Les femmes sont capables de transcender tout. Vous écoutez « Mourir de l'intérieur », un texte de Laurie Jean-Louis, paru à l'automne 2021 dans le numéro 814 de la revue Relations. Selon Sabella, être infirmière n'est pas seulement un savoir-être, mais principalement un savoir-faire, et c'est à travers l'éthique de travail qu'on identifie une personne compétente. Les infirmières, fatiguées, puisent dans des ressources complètement taries, poursuit-elle. Il y a un très haut taux d'absence pour maladie parmi elles, aucune reconnaissance réelle sauf du côté des patients, mais si peu de la part des gestionnaires. L'ère covidienne aggrave ce qui n'allait déjà pas et la principale stratégie de manipulation qu'utilisent les gestionnaires passe par la culpabilisation, m'indique-t-elle. Dans les résidences privées pour personnes aînées, où elle a déjà travaillé, on joue beaucoup sur les émotions. On dira aux infirmières, « Tu dois rester, ma chère. T'es la plus jeune. Anyway, t'as pas d'enfant. C'est ta responsabilité. C'est dans ton code de déontologie. On laisse entendre que chacune devrait être en mesure de travailler pendant 12 ou 14 heures parce qu'il manque de personnel. Par exemple, elles peuvent n'être que deux infirmières pour 40 patients, mais les gestionnaires leur feront comprendre qu'il est anormal qu'elles ne puissent accomplir l'ensemble de leurs tâches dans un quart de travail. Elles acceptent tous les reproches de peur de perdre leur permis. Une sorte de loi du silence généralisé condamne ainsi les unes à la peur et les autres à l'indifférence. À cela s'ajoute le fait que plusieurs infirmières, qui sont soit haïtiennes, soit d'origine haïtienne, occupent un emploi précaire et ne connaissent pas leurs droits ni les lois. « Je parle beaucoup avec elles », raconte Sabella. Je leur dis « Va sur le site de la CNESST et si t'es pas sûr, tu peux appeler. » Il y a des agents, mais elles ont peur. Souvent, elles sont seules. Elles doivent prendre soin des enfants. Trop souvent, ces femmes ne disposent que de leurs maigres revenus parce qu'elles sont monoparentales et que le chômage touche disproportionnellement leurs proches noirs, qui sont ainsi dans l'impossibilité de les aider. Elles travaillent de soir, de nuit, de jour. Elles sont dans l'ombre. Elles travaillent à temps plus que plein, sans les conditions qui devraient venir avec. Exister au plus petit souffle de soi. Aux yeux de Sabella, plusieurs de ces infirmières sont zombifiées. Toutes les émotions que le travail peut leur procurer sont bloquées. Celles qu'elles côtoient disent que de toute façon, elles n'entendent plus rien, elles ne sentent plus rien. Elles font leur travail et puis après, ciao, bye, elles rentrent à la maison. Elles ne veulent plus se battre. elles sont trop vulnérables. Les micro-agressions sont trop nombreuses. Avec tristesse, elle ajoute, le Québec ne se souviendra pas. À ses yeux, une fois la pandémie terminée, on ne retiendra rien. On oubliera les morts, dont les nombreuses personnes soignantes noires. Cependant, il y a une lueur d'espoir à ses yeux si les personnes noires, de couleur et autochtones se mobilisent. Avant de nous quitter, nous mentionnons rapidement le nom de Feu Joyce Echaquan, cette femme Atikamekw morte dans des circonstances horribles dans un hôpital de Joliette en filmant in extremis sa mort en direct alors que des infirmières lui profèrent des insultes racistes. Ça fait mal d'en parler. Sabella et moi savons trop bien que le racisme impose aux personnes de vivre au plus petit souffle de soi. Car même pour se soumettre, il faut un souffle. Ainsi, même au bout d'une abnégation totale, le Dieu qui nous trouve avec nos lambeaux de prière, aussi compatissant soit-il, n'arrive pas tout à fait à éliminer la douleur. Ce qui fait mal fait toujours aussi mal. Le système de santé est malade. La culpabilisation, la manipulation sont des violences commodes, ça ne fait pas de bruit. Je quitte Sabella avec l'impression que mourir de l'intérieur est trop souvent le seul moyen de survivre. C'était « Mourir de l'intérieur », un texte de Laurie Jean-Louis, paru à l'automne 2021 dans le numéro 814 de la revue Relations.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visez-voix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche à la lecture, Anne Hébert à la recherche, Nicolas Zortman à la présentation et au montage.